France Info.
Bonjour Gérald Darmanin.
Bonjour.
On vient de l'entendre, le groupe Fiat Chrysler retire sa proposition de fusion faite à Renault. Le gouvernement français attendait avant de donner sa réponse. Est-ce qu'il a trop attendu ?
Non, je ne crois pas qu'il ait trop attendu. Ce qu'on attend de l'actionnaire, l'État français, ce qu'on attend de l'État français, et Bruno Le Maire l'a très bien dit, c'est évidemment de protéger l'emploi industriel en France, respecter ses partenaires déjà, les Japonais, mais de respecter les 49 000 emplois industriels de Renault en France. Il a demandé des garanties, ce conseil d'administration, l'État français a demandé des garanties par la voix de son ministre de l'économie et des finances, il a bien fait. Voilà, si ces garanties ne sont pas réunies, nous le regrettons. Peut-être que demain, après-demain ou la semaine prochaine, si j'ose dire, on pourra encore discuter avec ce géant italien. Mais c'était normal d'attendre effectivement que ces garanties soient respectées.
Vous dites que ce n'est pas définitif. Les discussions pourraient reprendre.
Elles pourraient reprendre peut-être dans les prochains temps. On verra bien. Je pense qu'il ne faut pas fermer la porte. Il faut continuer à travailler parce qu'il y a une industrie automobile qui doit continuer à se rénover. Il y a le véhicule autonome, il y a la batterie électrique. Il y a bien sûr plein d'enjeux pour l'industrie automobile européenne. Mais aujourd'hui, Bruno Le Maire l'a très bien dit encore une fois, il faut protéger les emplois industriels français. Si on ne l'avait pas fait, et que dans quelques mois, vous seriez tous aperçus qu'il y avait des restructurations et des emplois en moins en France, vous auriez dit que vous n'avez pas protégé les intérêts des Français et des emplois français. Voilà, la France, elle défend les intérêts français.
Elle vous a surpris, cette réaction, ce retrait du groupe Fiat Chrysler cette nuit ?
Moi, je n'étais pas dans le dossier en premier, puisque c'est Bruno Le Maire qui l'a porté. Ce qui est intéressant, c'est que le ministre de l'économie, c'est-à-dire l'État français, dans ce conseil d'administration, a dit à la fois « il nous faut du temps » pour que ces conditions soient réunies et que Fiat puisse notamment nous dire effectivement qu'il respecte ses conditions d'emploi industriel. Et puis deuxièmement, il fallait parler avec les Japonais, parce qu'il fallait que les Japonais, bien sûr, aient donné une voix par Nissan, une voix favorable dans le prochain conseil d'administration. Ces conditions n'étaient pas encore remplies. Et donc demander du temps pour un mariage, excusez-moi de le dire, c'est normal. J'espère qu'il peut y avoir des mariages qui naissent au bout de quelques jours et on va à la mairie et on est très heureux toute sa vie. Mais enfin, un peu de réflexion permet sans doute de mieux comprendre la mariée.
Et c'est les leçons de ce qui est arrivé avec General Electric qui ont conduit le gouvernement français à réclamer justement ces garanties, comme vous le disiez à l'instant, pour la préservation de l'emploi.
On peut pas comparer, me semble-t-il, les choses. On peut pas comparer les secteurs.
General Electric avait pris des engagements qui n'ont pas été tenus et qui aboutissent à la suppression de plus d'un millier d'emplois sur le site de Belfort.
Bon, pour l'instant, General Electric n'a pas supprimé ce millier d'emplois. Vous avez vu qu'une fois encore, l'État français a demander qu'il revoie ce plan, qu'il s'engage pour les 1000 autres emplois qui sont sur le site. Et il faut diversifier le site à Belfort. Je pense que ce n'est pas du tout comparable. Mmh. En revanche, ce qui est certain, c'est que Renault est une grande entreprise française qui a face à elle d'énormes défis. Elle s'est déjà internationalisée avec nos amis japonais. Les choses se regardaient avec Fiat, encore une fois, parce qu'il y a manifestement un certain nombre de révolutions qu'il faut prendre, et notamment le véhicule autonome. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faille se précipiter. Et les conditions mises par l'État français, c'était les conditions de protection de l'emploi français. Ben moi, je suis très heureux de participer à un gouvernement qui protège l'État français, qui regarde l'avenir, qui n'est pas contre les mariages, mais qui protège les intérêts français.
Renault ne va pas le payer à long terme, Gérald Darmanin ?
Non, je ne le crois pas. D'abord, Renault a désormais des dirigeants qui travaillent, et je les connais bien, travaillent bien à l'avenir d'une grande entreprise. Je connais d'ailleurs la capacité des gens de Renault, des ouvriers comme des ingénieurs, à se relever des crises économiques que nous avons connues sur notre territoire et d'être très international. Donc je crois que Renault va pouvoir travailler, continuer à travailler, faire des coopérations et puis sans doute répondre, encore une fois, à l'industrie automobile de demain. Et de la batterie électrique au véhicule autonome, il y a quelque chose incroyable qui va se passer dans cette industrie et beaucoup d'emplois demain pourront sans doute être créés. Et moi personnellement, je suis très attaché à l'industrie et je suis très heureux qu'il y ait une industrie un peu patriotique qui fait attention aux intérêts français.
Et pour en finir avec ce dossier, vous dites donc que pour le gouvernement français, tout n'est pas terminé. Ça veut dire que le gouvernement français souhaiterait que Fiat Chrysler, pourquoi pas, remettre sa proposition sur la table dans les jours ou les semaines qui viennent.
Non, le gouvernement français voulait, un, que les conditions, notamment d'emploi industriel et de respect de nos partenaires japonais, soient réunies. Ils n'étaient pas manifestement réunis puisque Fiat a retiré son offre et nous le respectons. Mais si demain Fiat vient à revenir et à rediscuter, je suis certain que par la voix de Bruno Le Maire, nous continuerons les discussions.
Alors, sur un tout autre dossier politique, celui-là, qui concerne votre ancienne famille politique, en tout cas votre ancien parti, les Républicains, la crise s'aggrave aux Républicains à la suite de l'échec de la liste de François-Xavier Bellamy aux Européennes. Et hier, c'est donc la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui a annoncé qu'elle claquait la porte du parti.
En femme libre, j'ai décidé de quitter les Républicains. J'ai décidé de quitter les Républicains parce que j'ai acquis la conviction que la refondation de la droite ne pourra pas se faire à l'intérieur et qu'elle doit se faire à l'extérieur du parti. Parce que le parti est cadenassé de l'intérieur. Il est cadenassé dans son organisation, mais il est aussi cadenassé dans ses idées.
Et vous, ce départ, bah, il vous réjouit. Le journal Le Parisien vous cite ce matin, Gérald Darmanin, Valérie Pécresse est montée dans le canot de sauvetage du Titanic, dites-vous. Les dirigeants LR sont devenus trop radioactifs.
Ah, moi, je ne suis pas réjoui que le Titanic ou que Tchernobyl existe. Hein, donc, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je regarde les choses avec un petit peu de recul. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la droite française, telle qu'elle est représentée de façon partisane, c'est-à-dire les Républicains, s'est rétrécie. Elle s'est rétrécie depuis la candidature de François Fillon. Puis ensuite, il y a eu Laurent Wauquiez, qui était déjà rétréci par rapport à François Fillon. Puis Monsieur Bellamy, qui était le rétrécissement de Laurent Wauquiez. Ça se termine à 8%. Ça se termine à 8% parce que les LR ne comprennent pas deux choses. D'abord qu'il faut un chef, et il n'y a pas de chef manifestement dans le parti des Républicains. Il n'y a pas de chef sincère, même si Monsieur Wauquiez est parti, il n'y a pas de chef qui incarne l'avenir des Républicains. La droite, c'était avant tout un chef. Ce n'est plus le cas. Et puis deuxièmement, surtout, j'allais dire, c'est une cohérence idéologique. Où est la cohérence idéologique des Républicains? En 2017, lorsqu'Édouard Philippe a été nommé Premier ministre, j'ai dit au bureau politique, avec d'autres, que nous devions comprendre la main tendue par Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça voulait dire, un jeune président talentueux qui venait d'un gouvernement de gauche, qui disait « moi je travaille avec des gens aussi de droite parce que le pays connaît une situation économique et politique très difficile », élu face à Marine Le Pen, et je demande à un Premier ministre qui n'est pas de ma famille politique de venir travailler avec nous. Plutôt que de répondre à cette main tendue, avec des réformes que nous faisons, qui ne sont pas de droite et de gauche, qui sont de bon sens.
Et vous écoutez, la place de la droite aujourd'hui, elle est donc avec Emmanuel Macron.
Mais je ne crois pas que les Français raisonnent comme ça désormais. Mais en 2017, ce qui était certain, c'est que la droite de gouvernement, la droite qui croyait à l'Europe, la droite qui croyait à l'industrie, la droite qui croyait à l'économie, elle aurait dû entendre cette main tendue, participer, me semble-t-il, à la refondation du pays, préférer son pays à son parti. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ceux qui ont été au Trocadéro, ceux qui ont soutenu François Fillon jusqu'au bout, ceux qui désormais s'en vont du parti politique que vous évoquez. Eh ben, ils s'aperçoivent que non seulement nous sommes partis parce qu'ils nous ont exclus, mais en plus, ils ont exclu leurs électeurs. Les électeurs aujourd'hui, ils sont plus de droite et de gauche, me semble-t-il. Ils ont peut-être des cultures de droite et de gauche. Mais ils sont plus de droite et de gauche comme on l'était il y a encore 15 ans. Ils souhaitent que notre pays réussisse devant un triple danger, intérieurement. Bah, le danger que représente Marine Le Pen, et qui est un danger très important. Moi, ça fait 20 ans que je vote contre le Front National, hein, puisque je vous rappelle que la première fois que j'ai voté, c'était contre Jean-Marie Le Pen à la présidence de la République. Ça commence à faire un petit bout. Ils sont très inquiets devant le deuxième défi qu'est l'Europe, qui se décompose à vue d'œil. Regardez ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe en Italie. Et puis ils sont très inquiets, me semble-t-il, les Français, qu'ils soient de droite ou de gauche, face à la mondialisation et aux géants chinois, américains, russes que nous rencontrons et qui, bien sûr, veulent prendre des parts de marché que nous avons. Et en attendant, on se demande de savoir quelle sera la ligne économique des Républicains. Est-ce qu'il faut augmenter le SMIC ou être contre la privatisation d'ADP? On est chez les fous. Donc Madame Pécresse, un peu tard, comme dirait la fable de La Fontaine, s'est aperçue qu'elle n'avait rien à faire là.
D'autres questions pour vous, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, invité de France Info ce matin, juste après l'info 8h41. David Doba.
La France commémore depuis quelques minutes maintenant le débarquement allié du 6 juin 44. Dans un contexte diplomatique délicat, la rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump sera particulièrement scrutée. Le président américain est attendu à 10h20 à Caen avant une cérémonie à Colville-sur-Mer et un tête-à-tête avec le chef de l'État à partir de 13h. La prudence de l'État français aura eu raison du rapprochement entre Renault-Nissan et Fiat Chrysler. Le groupe a retiré cette nuit sa proposition de fusion. Bruno Le Maire ce matin dit prendre acte de cette décision. Un procédé qui interpelle quant à la période choisie après les européennes et avant les municipales. Réaction de Gérard Collomb hier soir après une journée de perquisition à son domicile mais aussi à l'hôtel de ville de Lyon. Perquisition menée dans le cadre d'une enquête préliminaire sur les soupçons de détournement de fonds publics au bénéfice de son ex-compagne. En grève depuis bientôt 3 mois maintenant, les urgentistes toujours mobilisés, manifestation parisienne aujourd'hui. Ils s'élanceront à 13h30 de Montparnasse, direction le ministère de la Santé. Ils dénoncent les conditions de travail, les services saturés et l'épuisement professionnel.
France Info. Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, notre invité ce matin sur France Info. Est-ce que vous dites à Valérie Pécresse, qui a donc quitté les Républicains, et à ses amis, bienvenue dans la majorité, comme vous l'avez fait avec d'autres élus, les Républicains, des maires notamment, ces derniers jours, vous et d'autres ministres du gouvernement?
Bon, je n'ai pas de conseil politique à donner à Valérie Pécresse qui a beaucoup d'expérience. Je pense que la pente naturelle serait de soutenir le mouvement du gouvernement et de soutenir les réformes que fait Édouard Philippe et que souhaite faire Emmanuel Macron. Je pense que la pente naturelle serait d'arrêter l'égoïsme personnel et de s'apercevoir qu'on a un président de la République courageux qui essaie de dépasser les clivages, les anciens clivages que les Français ne veulent plus. Mais je suis un peu dubitatif sur la capacité désormais du personnel politique tel que nous le connaissons à dépasser son égoïsme pour travailler pour le pays. Voilà, donc je le regrette. Maintenant, moi, je juge sur les faits et nous regarderons ce que fera Valérie Pécresse et une partie de ses amis demain.
Mais est-ce que c'est très sain et très sage de faire, comme vous le faites, un appel donc à la droite à rejoindre Emmanuel Macron et la majorité, dès lors que ça ferait du Rassemblement national, donc de l'extrême droite, la seule alternative à cette majorité?
Mais ce qui est très sain, pardon de le dire, c'est qu'en politique, il faut rassembler. Si un homme politique passe son temps à exclure tous les gens avec qui il pourrait travailler, parce que la France, comme dirait le général de Gaulle, c'est pas la droite, c'est pas la gauche, c'est tout ça ensemble. Si Emmanuel Macron, si le Premier ministre, si les membres du gouvernement passaient son temps à exclure, à excommunier, à regarder le passé, sans se dire que demain, devant les événements incroyables que nous avons à relever comme défi, et notamment le fait que le Front National, en effet, fait un score très important, nous sommes en train de se dire, bah voilà, il faut pas travailler ensemble parce que vous étiez pas dans la barque depuis le début, on risque pas d'avancer beaucoup.
Donc seule alternative, c'est Marine Le Pen.
Bah écoutez, les Français, manifestement, souhaitent, par leur vote, et depuis manifestement un certain temps, et au moins depuis l'élection présidentielle, une opposition entre un parti nationaliste et un parti qui se voudrait parti de gouvernement, on va le dire comme cela. C'est quand même pas de la faute d'Emmanuel Macron si les autres sont pas capables de proposer ni un chef ni une cohérence idéologique. C'est quand même pas de la faute d'Emmanuel Macron si le Parti socialiste n'est plus socialiste et si les Républicains, pour le coup, ont parfois des discours qui sont contre la République. Je vois le député Monsieur Aubert. Il dit dans les colonnes, je crois, du Figaro, qu'il n'est pas contre travailler avec Marion Maréchal Le Pen.
Julien Aubert, député du Vaucluse.
Alors moi, c'est formidable. J'ai accepté d'aller travailler avec Emmanuel Macron parce que le Premier ministre qui a été choisi était de ma famille politique. J'ai toujours appelé à voter contre le Front National et j'ai gagné d'ailleurs dans des territoires où le Front National faisait des scores extrêmement importants. Jamais, contrairement à Monsieur Aubert d'ailleurs, le candidat du Front National s'était désisté en ma faveur pour les élections, ce qui lui est arrivé en 2017. On exclut Sébastien Lecornu ou Gérald Darmanin parce qu'il travaille avec Édouard Philippe et que ce serait absolument affreux. Par contre, on laisse Monsieur Aubert dans le Parti des Républicains et ça ne fait, vous aurez constaté,
et ça vous dit,
aucun espèce
ça
de
vous
bruit.
Dit Gérald Darmanin, c'est agir contre la République, c'est ce que vous venez de dire.
Ah bah, les gens qui font des alliances avec Marion Maréchal Le Pen, pardon de le dire, c'est pas ma République. Et ça ne choque personne. En 2 ans, je ne sais pas si vous avez vu le glissement de la droite française, et M. Wauquiez en est responsable, ça ne choque personne que des députés, des représentants du Parlement, du parti gaulliste, ou qui se prétendaient gaullistes, puissent faire des alliances avec Marion Maréchal Le Pen. En revanche, on monte du doigt ceux qui travaillent à la réforme du pays, du code du travail, de la fiscalité. Les Républicains ont perdu toute matrice idéologique, et il est grand temps, effectivement, que de quitter Titanic pour un certain nombre d'élus.
Vous dites la droite n'a pas de chef, le problème c'est aussi qu'elle n'a pas de chef, elle n'a pas donc de matrice idéologique. Est-ce que le chef de cette droite populaire et sociale d'ailleurs dont vous vous réclamez, ça pourrait pas être votre ami Xavier Bertrand?
Alors Xavier Bertrand est mon ami, c'est un excellent président de région, mais moi il me semble que le président Macron peut être ce chef-là. Il peut parler au peuple dans ses profondeurs. Le président Macron, il fait la politique que souhaitent les classes populaires. Simplement nous avons un sujet. C'est que pour l'instant, il faut bien avouer que nous n'avons pas réussi à les convaincre.
Elles ne votent pas pour vous, elles ont voté massivement pour le Rassemblement national aux élections européennes.
Vous avez bien raison. Et c'est l'objet, sans doute, d'une réflexion que la majorité doit avoir, qu'elle doit se remettre aussi en cause. Et ça commence par les ministres et par moi-même. Nous n'avons pas réussi à convaincre, malgré une politique qui lui est favorable, les classes populaires et les classes moyennes pour l'instant.
Donc le président des riches, c'est pas totalement faux, Gérald Darmanin?
Non, je ne crois pas que ce soit comme ça que les cartes électorales fonctionnent. Il y a des endroits, je prends l'exemple de la ville de Lille, par exemple, hein, ou même la ville de Tourcoing, où La République En Marche a fait les quasiment 20% des élections européennes. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'à Lille et à Tourcoing, il y ait beaucoup de riches. En revanche, je constate que dans les quartiers très populaires, dans les communes rurales, dans les lieux où on n'est pas dans les métropoles, où il y a plus de difficultés, parce qu'on appelle ça la France périphérique, pour faire extrêmement vite, j'essaie de caricaturer évidemment, nous n'avons pas réussi à convaincre une majorité d'électeurs. C'est très inquiétant, effectivement. Si vous prenez la carte électorale de la région des Hauts-de-France, la métropole lilloise, il y a des riches, il y a des pauvres dans la métropole lilloise, elle vote Emmanuel Macron, elle a voté Nathalie Loiseau, et puis à côté, il y a un océan. Cet océan, c'est l'océan du Front National.
Aujourd'hui, vous êtes le parti des gagnants de la mondialisation, c'est la fameuse Startup Nation, c'est ça?
Aujourd'hui, nous avons plutôt séduit les bourgeoisies de droite et de gauche Et une partie, je voudrais le dire quand même, des personnes âgées.
Si vous avez séduit ces bourgeoisies, c'est parce qu'elles se reconnaissent dans votre politique. La suppression de l'ISF, la flat tax, le fameux président des riches.
Si tous ceux à qui on avait supprimé l'ISF, c'était simplement nos électeurs, nous ne ferions pas 20%, mais 1. Bon, donc il faut savoir raison garder.
Au-delà, en tout cas, une politique qui a séduit ces catégories.
Nous séduisons des gens qui croient en l'Europe, qui pensent qu'il y a un avenir pour leur territoire, qui pensent qu'effectivement la France peut conquérir des parts de marché, que leurs enfants peuvent avoir une meilleure vie qu'eux, et effectivement des gens qui ont de l'espoir. Nous ne séduisons pas les gens qui se disent « je ne me ressens pas dans cette société pour l'instant ». Mais moi, je crois qu'Emmanuel Macron pourra y arriver. D'abord parce que le travail et les travailleurs, c'est la première politique qu'une classe populaire demande. Et Emmanuel Macron fait tout ce qu'il peut, et je crois que le Premier ministre le dira encore dans son discours de politique générale, en baissant la taxe d'habitation, en mettant en place le dédoublement des classes, en ayant une politique de fermeté en termes de sécurité. Simplement, il est vrai que la famille électorale populaire, pardon, de la secrétaire de mairie, du policier municipal, de l'ouvrier, de l'employé de chez Auchan, elle attend des preuves. Elle n'attend pas simplement des déclarations. Mais vous savez, l'électorat populaire, il est difficile à séduire. Mais une fois qu'il est séduit, il est fidèle. Et moi, je suis certain qu'Emmanuel Macron arrivera à le séduire.
Gérald Darmanin, les contribuables qui nous écoutent, ceux qui résident en tout cas dans des départements numérotés entre 50 et 976, ont jusqu'à ce soir pour faire leur déclaration de revenus. Ils ont été nombreux à le faire en début de semaine. Le site impots.gouv.fr a bugué. Est-ce que ça va bien se passer ce soir?
Ça s'est bien passé depuis 48 heures, vous l'aurez constaté. Il y a eu, à partir de 21h30 mardi soir, me semble-t-il, un moment très étonnant, de 3 millions de personnes qui sont connectées en même temps. Bon, sans doute ont-ils regardé les journaux télévisés, ils se sont dit, il faut que je fasse ma déclaration d'impôt, il ne me reste plus que quelques minutes. Il y a une tendance...
Vous n'aviez pas prévu ça, c'était un peu prévisible.
Écoutez, à 3 millions, non, ça s'est jamais passé dans l'histoire de impots.gouv.fr, pardon de le dire. Peut-être que nous aurions dû le prévoir, vous avez raison, mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que le site des impôts, qui tient l'essentiel de vos données fiscales, puisque c'est des déclarations pré-remplies numériques, et il y a dedans votre salaire, votre vie maritale, etc., s'est protégé parce qu'elle a cru une attaque. Et nous avons des sites, effectivement, protégés qui évitent les attaques extérieures, parce que vous n'aimeriez sans doute pas, pardon, que vos données fiscales soient publiées. Donc elle s'est protégée pendant 2 heures, ce site, et puis après on l'a réouvert, et désormais les choses fonctionnent bien. Ce que je peux dire, c'est d'abord effectivement qu'on a laissé 48 heures de plus pour déclarer ses impôts. J'ai reçu énormément de messages de soutien. Sans doute c'est la politique la plus positive que j'ai pu mener, puisque le nombre de Français qui m'ont dit, vous avez, merci des 48 heures de plus, parce que
les Français aiment bien les délais.
J'ai un peu procrastiné, voilà. Donc
ce soir minuit, c'est fini, c'est sûr.
Ce soir minuit, c'est fini.
Il n'y aura pas de nouveau délai.
Ce soir minuit, c'est fini. Et vous savez quoi? L'année prochaine, ce sera pas du tout le cas, puisqu'une grande partie des Français ne feront plus grâce à l'impôt à la source de déclaration d'impôt. De déclaration de revenus, d'ailleurs, qui feront payer des impôts.
Plus de déclaration de revenus pour une majorité de Français?
Oui, pour plus de 11 millions de nos foyers fiscaux, sur à peu près les 30 millions qu'il y a de foyers fiscaux. On enverra une déclaration qui sera une déclaration tacite. Vous la relirez. S'il y a une erreur, vous direz aux impôts, il y a une erreur. Et l'essentiel de ces contribuables verront qu'il n'y a pas d'erreur. Et donc, ne sont plus obligés ni de renvoyer papier ni de remplir en numérique leur déclaration. C'est une grande simplicité grâce à l'impôt à la source.
Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, notre invité ce matin sur France Info. 8h51, le tour de l'actualité avec David Dauba.
75e anniversaire du débarquement de Normandie, côté français cette fois-ci. 30 000 personnes attendues, les cérémonies ont débuté depuis une vingtaine de minutes. Emmanuel Macron et Theresa May posent la première pierre d'un mémorial britannique. Mais les yeux et les caméras seront tournés vers Donald Trump, rencontre attendue à partir de 11h avec le chef de l'État. Après une commémoration au cimetière militaire de Colville-sur-Mer, les deux hommes, dont les relations, vous le savez, se sont quelque peu refroidies au fil des mois, se retrouveront pour un tête-à-tête et un déjeuner. Valérie Pécresse quitte Les Républicains, elle l'a annoncé hier soir sur France 2. Elle dénonce un parti cadenassé de l'intérieur. C'est une information que vous révèle France Info. Ce matin, deux agents hospitaliers de l'hôpital Necker à Paris suspendus à titre conservatoire. Le 26 mai, ils avaient malmené une patiente mineure et handicapée. Et puis cette mauvaise passe pour Neymar, la star du PSG, est forfait pour la Copa América. Il s'est foulé la cheville lors d'un match amical. Hier, c'était face au Qatar. Quelques minutes plus tôt, la Brésilienne qui l'accuse de viol avait pris la parole dans les médias. Elle reconnaît avoir voulu une relation sexuelle avec lui, mais selon elle, il serait devenu agressif et violent une fois dans la chambre d'hôtel.
Info. Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, notre invité ce matin sur France Info. Renaud Dely.
Gérald Darmanin, le gouvernement a annoncé 5 milliards de baisses d'impôts dès 2020. Vous avez dit que 95% des contribuables français seraient concernés. Quand les Français verront-ils les effets de cette baisse d'impôts?
Dès le mois de janvier de l'année prochaine, puisque grâce à l'impôt à la source, Dès le mois de janvier, vous verrez cette augmentation de pouvoir d'achat. S'il n'y avait pas eu l'impôt à la source, vous auriez attendu septembre-octobre de l'année 2020. Il me semble que le Premier ministre fait un discours de politique générale la semaine prochaine et il aura sans doute l'occasion de préciser un certain nombre de
choses. Quelles seront les catégories concernées et quel sera le montant moyen de cette baisse d'impôt? Vous aviez évoqué autour de 300-350 euros?
C'est à peu près ça. Le Premier ministre, encore une fois, fait un discours de politique générale. Dans son discours de politique générale, il donnera un certain nombre d'éléments de calendrier, des réformes, des économies et des bonnes nouvelles, et notamment, sans doute, celle de la baisse d'impôts.
Et notamment, peut-être l'abaissement de la première tranche, celle qui est aujourd'hui à 14%.
Alors, je peux répéter, comme dans la Cité de la Peur, plusieurs fois la même phrase. Laissez le Premier ministre faire son travail. Croyez bien que vous serez les premiers informés. Vous connaissez la réplique.
Gérald Darmanin, nous sommes le 6 juin, 75 ans après le débarquement allié en Normandie. Commémoration ce matin, Emmanuel Macron est en ce moment avec Theresa May. Et puis en fin de matinée, il sera avec Donald Trump. Et l'entretien entre les deux hommes va durer une demi-heure. Ils n'ont rien à se dire, les présidents français et américains, aujourd'hui?
Bon, d'abord, on est dans une journée de commémoration. Il y a eu des jeunes gens, beaucoup plus jeunes que moi, de 18, de 19, de 20 ans, qui sont allés se faire tuer sur les plages de Normandie, non pas pour prendre le soleil comme nous avons le droit de le faire aujourd'hui, mais pour libérer le monde libre et libérer le monde qui n'était pas libre et qui est devenu le monde libre, et justement la France. Donc d'abord, merci aux Américains, merci aux jeunes Américains, et le président Trump est le bienvenu bien évidemment en France, et nous remercions cette grande nation qui nous a en partie libérés. Je pense que c'est un moment de commémoration, c'est pas un moment où on fait de la politique politicienne. Et vous savez, les vrais amis...
C'est un moment diplomatique aussi.
Oui, bien sûr, mais comme tout moment politique, mais pour autant, les vrais amis, ce qui est le cas entre la France et les États-Unis, l'amitié entre la France et les États-Unis est éternelle. Ça n'empêche pas que les vrais amis puissent de temps en temps avoir des désaccords. Moi, avec mes vrais amis, j'ai parfois des désaccords, parfois des dissensions. Parfois,
là, la question, c'est sur quoi on est
parfois
d'accord.
On se fait un peu la tête.
Avec quoi?
Parfois, sur on se fait un peu la tête. On est d'accord sur beaucoup de choses, puisque je vous rappelle que nos soldats, encore aujourd'hui, travaillent ensemble, c'était le cas au Burkina Faso voilà quelques jours, pour libérer des otages, pour lutter contre le terrorisme. Ils sont d'accord sur l'essentiel. Après, nous avons des différences. Bon, c'est normal, la France n'est pas les États-Unis, les États-Unis ne sont pas la France, chacun protège aussi ses intérêts.
Est-ce que vous redoutez justement, Gérald Darmanin, que la dégradation des relations commerciales, en particulier entre la France et les États-Unis, et aussi entre les États-Unis et l'Union européenne, ait des conséquences, notamment sur la croissance?
Oui, de manière générale, on fait attention à plein de choses. On fait attention aux dégradations commerciales entre les États-Unis et la Chine, dans un premier temps, entre la Chine et les États-Unis, mais aussi à ce qui se passe en Italie. Moi, je suis encore plus inquiet de ce qui se passe en Italie que ce qui se passe vis-à-vis de la politique américaine. Lorsqu'on voit un gouvernement italien qui manifestement ne tient pas ses comptes publics et dont les spreads, c'est-à-dire les taux d'intérêt, augmentent très fortement, notre premier partenaire, après l'Allemagne, ce sont quand même les pays européens, notamment l'Italie. Nous avons beaucoup d'imbrications avec l'Italie. Je suis encore plus inquiet de ce qui se passe en Italie ou ce qui se passe avec le Brexit.
Est-ce que la Commission européenne doit sanctionner l'Italie?
Moi, je ne suis pas à la Commission européenne, je n'ai pas d'opinion.
Rappelez alors dans l'Italie, justement.
Non, mais je n'ai pas d'opinion. Je pense qu'il faut à la fois respecter la volonté des peuples et en même temps se dire que quand on est dans l'Union européenne, on accepte l'idée que nous avons une monnaie en commun et que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Ce qui est certain, c'est que la démagogie d'une campagne électorale donne, quelques mois après, la politique de M. Salvini. Et c'est une leçon pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour la France. À la fin, les comptes publics, quand ils ne sont pas tenus, c'est le peuple et les classes sociales les plus populaires qui le payent. Parce que les augmentations d'intérêt, ça empêche aujourd'hui les jeunes Italiens de devenir propriétaires. Voilà, c'est ça. Pourquoi on tient des comptes publics? C'est pas une lubie de Bercy, c'est effectivement le fait qu'il faut savoir protéger le peuple, parfois contre la démagogie, et il faut effectivement faire attention aux bonnes finances.
Vous parliez du Brexit, quand Donald Trump demande à Theresa May d'être plus dur dans les négociations avec les dirigeants européens, et qu'il s'exprime depuis le sol du Royaume-Uni, ça vous choque?
Ça me choque pas plus que ça. Vous savez, quand le général de Gaulle faisait le tour du monde pour dire au Vietnam ou en Chine un certain nombre de choses,
on parlait de Donald Trump au général de Gaulle.
Non, mais c'est un grand dirigeant international. La vérité, c'est que Monsieur Trump, il fait la politique des intérêts américains. Il est tout à fait normal que les Français et les Européens fassent la politique des Français et des Européens. Et nous avons, grâce à Emmanuel Macron, un dirigeant entendu dans le monde et en Europe. Et je suis bien heureux que les élections européennes aient renforcé la légitimité du président français pour parler à Monsieur Trump et lui dire les quatre vérités lorsqu'on a besoin de dire quatre vérités entre amis.
Vous évoquiez à l'instant, Gérald Darmanin, la nécessité de tenir les comptes publics. Bruno Le Maire, votre collègue, a annoncé hier qu'il entendait engager d'ici la fin de l'année la privatisation de la Française des Jeux. Est-ce que les comptes de l'État sont aussi dans aussi mauvais état qu'il faille privatiser rapidement, après ADP, maintenant la FDJ?
Alors rapidement, tout est relatif quand même.
Ça fait
deux ans.
Pourquoi une
telle urgence? Donc ça fera trois ans pour une privatisation. On peut pas dire que ce soit le rythme du marché. Hein. Non, on peut pas dire qu'on ait fait ça rapidement.
Il faut renflouer donc les caisses de l'État.
Il faut que l'on puisse se dire, est-ce que c'est stratégique de gérer la Française des Jeux ? Est-ce que c'est stratégique de gérer votre loterie ou le loto que vous faites peut-être en famille le dimanche, à condition que l'État régule ? Ou est-ce que c'est plus stratégique d'inventer la batterie électrique de demain ? C'est ce qu'on va faire. On vend la Française des Jeux, on garde la régulation pour qu'il ne se passe pas n'importe quoi, et avec cet argent, on fait le fonds d'innovation qui permet de faire la batterie électrique qui sauvera peut-être Renault ou Peugeot demain.
Mais pour ça éviter que ce soit les Chinois. La Française des Jeux tous les jours à l'État.
Non mais c'est pas le sujet que ça rapporte ou ça rapporte pas. Ça rapportera demain. Il y a des taxes toujours sur la Française des Jeux. La France ne dit pas je ne touche plus les taxes de la Française des Jeux. Ce qui est stratégique, c'est pas de s'occuper des loteries. Hein, ce qui est stratégique, c'est de s'occuper de la batterie électrique. La France, ça doit être le pays demain de la batterie électrique. Et il y a des gens, des partenaires privés, à condition que nous régulons. Et il y a des conditions pour cela dans la privatisation. Bah, que l'État doit se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'avenir des Français.
Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, invité de France Info ce matin. Merci à vous.
Merci. Merci à vous.